Est-ce que Dieu est grand? Le croyez-vous? Regardez bien, je pense que Dieu a besoin d'une mérite une ovation. Hein? On se lève debout tous ensemble. Et moi, je vais entendre des applaudissements tellement forts comme si les Canadiens devaient le scorer. On veut applaudir encore plus fort que le premier service. Ça s'en vient. Amen. Dieu est grand. C'est bon, hey. Merci Seigneur. Hey, vous pouvez vous asseoir, certainement. Dieu est grand. Hey, écoutez, la semaine prochaine, on va avoir le pré-lancement, en fait. C'est la semaine prochaine que ça sera le temps de s'engager pour ce 21 jours de jeûne et prière qui va commencer prochainement. Ça va commencer, en fait, dans 2 semaines. Mais c'est la semaine prochaine qu'on s'inscrit à ce mouvement, cet élan de prière et de jeûne. On va avoir un tableau ici que vous allez pouvoir prendre un bracelet de Libération 21. Et c'est votre façon de dire, moi, je m'engage, et vous pouvez écrire votre nom au tableau. Alors, on va vous remettre un dépliant avec toutes les activités, les informations pendant ce 21 jours de prière et de jeûne. On ne vous demande pas de jeûner pendant 21 jours. Vous pouvez jeûner un repas, deux, peut-être une journée, peut-être quelques-uns prendront quelques jours. C'est libre à vous, là. Il n'y a pas de pression là-dessus. Mais ce qu'on veut, c'est que le thème de cette année, de Libération 21, c'est de l'amertume à la grâce. Et on veut demander à Dieu, pendant ces 21 jours, que Dieu puisse nous libérer de toute trace d'amertume qui est là, logée profondément dans notre cœur. Et croyez-moi, il y en a là, dans le cœur. Là. Et puis, on a juste à jaser à quelques personnes et on voit, il y a des grosses blessures qui sont là. Et on a besoin que Dieu puisse guérir des choses, nous libérer de l'amertume, parfois de la colère. Et on veut passer ce temps-là à vraiment retourner à Dieu, nous recueillir, nous approcher de Dieu. Et que Dieu fasse une libération qui, dans notre cœur, qu'on s'approche de lui, qu'on se donne à lui et qu'on puisse connaître personnellement une libération, mais aussi dans notre foyer, dans notre ménage, dans notre milieu, dans notre réseau d'amis et aussi dans la ville. Ça serait tout merveilleux de voir la ville se tourner vers le Seigneur Jésus. Amen. C'est ça qu'on veut, hein? Les gens se tournent. J'entends des belles choses, des gens qui se tournent vers le Seigneur entre les deux services. J'entendais des beaux témoignages des gens qui sont en train de se redonner au Seigneur, qui avaient abandonné depuis quelque temps. Et le Seigneur est en train d'opérer quelque chose qui se passe, là. Et c'est ça qu'on lui demande, que Dieu opère ce miracle-là dans nos cœurs et partout autour de nous. Eh bien, on va passer un temps dans la prière demandant à Dieu de vraiment bénir cette période de Libération 21, que Dieu fasse des miracles dans les vies. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce service de ce matin. Nous te prions que tu puisses bénir abondamment ce temps ce matin. On te prie de bénir également ceux qui nous écoutent sur Internet. On sait qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout. Que tu puisses leur faire du bien ce matin, que ce soit en direct ou que ce soit plus tard, à réécouter ces messages sur le site. Nous te prions que tu puisses bénir ces gens-là, que tu puisses toucher nos cœurs, parler à nos cœurs ce matin, et que tu puisses opérer des délivrances, que des forteresses tombent, Seigneur, et que nous puissions connaître la victoire en toi. Alors ce matin, alors qu'on ouvre les Écritures, on te prie que tu parles à nos cœurs par ton Esprit Saint. On prie que tu bénisses abondamment ce 21 jours qui s'en vient, Libération 21. Opère une œuvre merveilleuse. Étonne-nous à nouveau, comme tu le fais si bien régulièrement, en voyant des vies victorieuses, des vies qui se consacrent, Seigneur, en voyant des jeunes qui se consacrent et des moins jeunes, pour ta gloire, Seigneur. Tout ça, c'est pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Eh bien, il y a un livre écrit par Ravi Zacharias qui s'intitule « Jésus parmi les dieux séculiers »,« Jesus among secular gods ». Et il raconte l'histoire d'un entretien qu'il a eu avec un jeune homme qui fait partie d'une religion, une grande religion. Et puis, ce jeune homme-là était préoccupé d'entendre des propos. Il a entendu un de ses leaders spirituels qui parlait avec un missionnaire chrétien. Il y avait cet échange entre les deux. Et puis, le missionnaire chrétien lui parlait du pardon. Et quelle ne fut pas la surprise du jeune homme d'entendre ce leader spirituel qui était éminent, une personne très respectée de son mouvement, de sa religion, l'entendre dire à propos du pardon, parce que le chrétien, ce missionnaire, voulait savoir comment il voyait le pardon, s'il n'y avait pas de pardon, il sentait qu'il n'y avait pas beaucoup de pardon dans sa conception, à ce leader spirituel. Et voici ce qu'il a dit, voici ce qu'il a répondu à l'égard du pardon. Il a dit, « Le pardon est uniquement pour ceux qui le méritent. » Le pardon est uniquement pour ceux qui le méritent. Alors imaginez la consternation de ce jeune homme à entendre ses propos. Et le jeune homme a répondu, « Écoutez, il dit... Dans le fond, ça l'explique tout et ça n'explique rien. Il dit qu'il faut mériter le pardon. En somme, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de pardon. Et il a tout à fait raison, n'est-ce pas? Où serions-nous aujourd'hui, si vous et moi, si Dieu accordait le pardon uniquement à ceux qui le méritent? On ne serait pas ici. Parce que personne ici mérite vraiment le pardon de Dieu. C'est une question de mérite. Personne mérite le pardon de Dieu. Mais heureusement, Jésus, lui, le méritait. Il n'avait pas besoin de pardon. Mais il est venu ici sur terre. Il a pris sur lui, sur ses épaules, nos péchés, tout le mal qu'on a fait, tout le mal qu'on a pensé. Et il a pris ça sur lui. Il s'est offert en sacrifice sur la croix. Il s'est offert à Dieu en sacrifice afin de prendre nos péchés sur ses épaules, afin de nous procurer la réconciliation avec Dieu et de nous procurer la paix avec Dieu. Il y avait cette colère, Dieu avait cette colère à cause de notre attitude, notre égoïsme, notre orgueil, et Jésus a pris sur lui la colère de Dieu afin que nous puissions devenir réconcilier avec Dieu, avoir la vie éternelle, le salut, et vivre avec Dieu dans sa famille pour l'éternité. Eh bien, regardez ce passage dans Romains qui dit exactement ça, c'est ce qui s'est passé. On va le mettre au tableau. Et c'est Romains chapitre 5 et verset 7 qui dit ceci. « À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien ?» Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions des ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Dieu nous a pardonnés quand on ne méritait pas son pardon. Il nous a acceptés alors qu'on n'était pas acceptable. Il nous a aimés lorsqu'on n'était pas aimable. Et en retour, ce que Dieu nous a sauvés, nous donner sa vie en nous, en retour, il demande la même chose maintenant, à notre égard. Parce que Dieu nous a aimés, il veut qu'on s'aime les uns les autres au sein de son peuple, au sein de son Église. Regardez bien ce que ça dit dans 1 Jean 4, « Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés. » Alors que Dieu nous a aimés alors qu'on n'était pas aimables. Eh bien, puisque Dieu nous a aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Alors, on termine notre série sur la lettre aux Corinthiens ce matin. On est rendu au chapitre 16, la lettre aux 1 Corinthiens. Et lorsqu'on arrive à 1 Corinthiens chapitre 16, le début d'1 Corinthiens 16, les quatre premiers versets touchent la question d'une collecte qui se faisait parmi les églises parce que les églises voulaient aider des gens qui étaient démunis. Et puis l'église de Corinthe aussi voulait aider. Alors elle voulait contribuer à cette aide parce qu'il y avait plusieurs personnes qui souffraient, qui étaient démunies. Alors Paul faisait le tour, ramassait de ses argents pour aider ces pauvres, ces personnes qui souffraient. Alors les quatre premiers versets se concernent cette question de cette collecte, mais en même temps, Paul va donner certains principes en regard à l'argent. Après ça, verset 5 plutôt, jusqu'au verset 12, Paul aborde un autre thème, un second thème qu'on a vu la semaine dernière, toute la question de la direction divine. Et on regarde le plan de voyage de l'apôtre Paul, et à travers ce voyage, ce plan de voyage, on a pu découvrir, déceler finalement la perception de l'apôtre Paul de la direction de Dieu. Comment il percevait la direction de Dieu dans sa vie? Et par le fait même, par ricochet, on a pu apprendre nous-mêmes certains principes qui nous aident à déceler la direction de Dieu. Et maintenant, il va aborder un autre thème, un troisième thème. Mais on va s'apercevoir que ce thème-là est vraiment différent des autres thèmes parce qu'en somme, ça ne se limite pas jusqu'au chapitre 16. On va découvrir finalement, lorsque tu étudies le contexte et tu étudies finalement toute la lettre aux Corinthiens, tu t'aperçois que non seulement c'est le thème du chapitre 16, mais c'est aussi le thème qui traverse toute la lettre à un point tel que c'est la toile de fond de toute la lettre aux Corinthiens. Dans le fond, si j'avais à refaire toute cette série, je commencerais avec le chapitre qui parle de ce thème-là dans 1 Corinthiens, parce que c'est vraiment ce qui lie tous ensemble cette lettre, cette belle lettre aux Corinthiens. Alors moi, j'aimerais vous lire ce matin cette portion du chapitre 16. En fait, on va se limiter qu'à 3 versets. Et donc, je vous invite, si vous avez votre Bible avec vous, à tourner avec moi et on va lire ces 3 versets dans 1 Corinthiens 16, d'accord? 1 Corinthiens 16, verset, on commence avec le verset 14. Et voici ce que l'apôtre Paul dit. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Hey, c'est gros ça, là. C'est une grosse commande. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Alors, vous comprenez bien que le thème qu'on est en train de parler ici, c'est l'amour, le thème de l'amour. Et le thème de l'amour est vraiment ce qui lie toute la lettre ensemble, comme on va le voir tantôt. Verset 22 qui dit ceci, c'est cette déclaration choc, qui dit « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit, Maranatha », en d'autres mots, que Jésus revienne. Et Paul termine en beauté sa lettre aux Corinthiens. Il termine en beauté avec le verset 24, alors qu'il dit « Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ ». Et croyez-moi, mon ami, ce n'est pas vraiment par hasard que ces 3 versets se trouvent là. Et ce n'est pas par hasard que Paul termine sa lettre avec cette note d'amour. Il a ce grand cœur envers ses Corinthiens, malgré leur attitude, comme on va le voir et comme on l'a déjà vu dans le passé. Alors que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Ce verset 14 représente vraiment le message de Paul. Si Paul devait écrire aujourd'hui une lettre aux Corinthiens, puis il devait écrire à travers Twitter, où c'est limité, il dirait ceci. Mais ça résume vraiment toute la lettre aux Corinthiens. Faites tout avec amour. Et c'est vraiment cela, le message qui traverse toute la lettre. Et il montre son cœur envers les Corinthiens au verset 24. Hein? « Mon amour est avec vous tous en Jésus-Christ. » Maintenant, on a besoin de définir ce que c'est que l'amour. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'amour, là, mon ami, on sert de ça pour toutes les... Aïe, aïe, aïe. On dit, hein? On dit, ah, j'aime bien ma voiture. Non, dans mon cas, ça ne serait pas vrai. Je ne peux pas dire jamais. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. j'aime bien Jean. J'aime bien... ma télévision, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Fait que finalement, à travers les années, on sert tellement du mot amour de façon très large et étendue qu'on a perdu le sens que le Nouveau Testament donnait à l'amour. On n'a plus le même sens. Alors, on a besoin vraiment de retourner dans le Nouveau Testament pour comprendre la vraie définition telle que Dieu l'entend, lui. Comment Dieu voit l'amour et comment il veut que son peuple s'aime les uns les autres. Maintenant, l'un des grands chapitres qui parle de l'amour se trouve justement là, dans cette lettre, évidemment, dans cette lettre, 1 Corinthiens 13. Et ce n'est pas par hasard, parce que la lettre aux Corinthiens, moi, je dis tout le temps, j'aurais jamais vraiment aimé être pasteur d'une église comme Corinthe. Hey, c'est affreux, là. Ils ont tous les problèmes du monde. On vient de traverser toute la lettre, là, puis il y a tout, là. C'est incroyable, là. Il y a médisance, les gens s'haïssaient, se méprisaient. Ils méprisaient même Paul. Il n'y avait même aucun respect pour Paul, même. Paul a passé 4, imagine-toi donc, tu écris une lettre, tu oublies de passer 4 chapitres à te défendre. Paul est obligé de passer, il sent le besoin de prendre 4 chapitres à se défendre. Bon, évidemment, Paul ne fait pas juste se défendre. Et c'est ça la beauté et le cœur de Paul. Il va profiter des critiques et de cette médisance et de ce mépris qu'il recevait des Corinthiens pour enseigner des principes tellement riches dans les quatre premiers chapitres sur la puissance, finalement, la puissance de Dieu et tout ça. C'est magnifique. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Je vous expliquais que Dwayne Litton, qui a écrit un livre, il a fait sa thèse de doctorat là-dessus, puis il a écrit tout un livre sur les quatre premiers chapitres d'un Corinthien. C'est magnifique. C'est un chef-d'œuvre. Et dans la série, on a pu voir un peu ça, là. Mais le chapitre qui parle de l'amour, justement, c'est le chapitre 13. Et ce chapitre a été soigneusement placé entre deux chapitres, le chapitre 12 et le chapitre 14. Et ça lie ensemble les trois chapitres qui parlent des dons de l'esprit. Et vous savez, les dons de l'esprit, c'est cette capacité surnaturelle d'accomplir une œuvre pour Dieu. Mais eux autres se servaient des dons de l'esprit, des dons spirituels pour autre chose, pour se glorifier, pour se mousser, là. Et popularisait plutôt les dons de l'esprit les plus spectaculaires, comme le don des langues et tout ça, et miraculeux. Et là, ça se pétait les bretelles, et ça se méprisait. Il y en avait d'autres membres dans l'Assemblée qui n'avaient pas des dons aussi éclatants, aussi visibles, et on méprisait ces gens-là. On méprisait les gens au sein de l'Assemblée qui n'avaient pas des dons frappants, là, c'était des dons plus cachés. Mais c'était tellement important, ces dons-là, et c'est ça le point que Paul va faire. Paul va me donner l'image d'un corps, et il dit, tous les dons sont importants. Vous avez tellement une mauvaise attitude, vous ne comprenez pas. Alors, il y avait ce mépris, on se prenait spirituel, parce qu'on avait peut-être des dons plus éclatants, plus visibles que d'autres, et là, on jugeait, on méprisait les autres qui n'avaient pas le même don. Alors, l'autre se sentait écrasé dans l'Assemblée, méprisé, et ils enviaient les autres dons. Et d'autres se glorifiaient pour les dons qu'ils avaient. C'était tout mêlé, là. Et l'apôtre Paul va donc consacrer ses trois chapitres sur les dons spirituels. Et ces gens-là mettaient tellement l'accent sur ces dons extraordinaires que l'apôtre Paul va même réserver un chapitre complet, chapitre 14, juste sur la question ces dons des langues, là. Et il y avait un désordre dans tout ça. Et Paul va mettre en plein milieu de ces deux chapitres, le chapitre 13 sur l'amour. Pourquoi? Parce qu'il veut leur donner le message que non seulement c'est utile, les dons spirituels, que chaque don est utile, même ceux qui sont moins évidents, mais non seulement ça, il faut se servir de son don par amour, les uns pour les autres, avec amour. Et ça prend de l'amour dans l'Assemblée. Pas cet orgueil, ce mépris, ces jugements, ça prend de l'amour. Et c'est pour ça que Paul va finalement écrire ce chapitre 13, entre autres, pour montrer cette leçon sur l'usage des dons spirituels. Mais ce qu'on découvre finalement, c'est au chapitre 13. Lorsque Paul écrit ce chapitre 13, il aborde le problème des Corinthiens. Et c'est fascinant, relire un Corinthien 13, lorsque tu connais l'état spirituel, cette attitude méprisante des Corinthiens, tu relis un Corinthien pour finalement découvrir que c'est à eux que ça s'adresse dans un premier temps. Et on va le voir tantôt. Alors, Paul va lancer ce message dans le chapitre 16, ces trois versets, c'est vraiment pas par hasard, ça s'adresse premièrement à nous éventuellement, mais premièrement à cette attitude corinthienne. Et Paul va leur dire, écoutez, ce qui compte, l'essentiel, c'est pas ces dons éclatants, c'est pas tout ça et que vous êtes riches et tout ça, ce qui compte, c'est l'amour. C'est l'essentiel que vous ayez l'amour les uns pour les autres. Et c'est la raison pour laquelle il va donner cette exhortation au verset 14 dans le chapitre 16, alors qu'il dit que tout ce que vous faites là, faites-le avec amour. Hey, c'est quelque chose, ça. Que tout ce que tu fais avec amour. Et ça veut dire tout, là. Que ton mariage soit fait avec amour. Que l'éducation de tes enfants soit faite avec amour. Que ton travail, lorsque tu vas partir demain matin, là, Quand tu vas partir, tu vas quitter la maison demain matin, tu vas aller travailler. Là. Va travailler avec cette attitude d'aller travailler avec amour. Quelque chose. Là. Que ton service à l'Église se fasse avec amour. Que tes relations avec les autres chrétiens se fassent avec amour. Que tout soit fait avec amour. Que tes relations avec les gens. Aucune exception. Alors, Paul va terminer sa lettre en disant, « Mon amour est avec vous. Moi, je vous aime. Je vous aime. Malgré l'attitude que vous avez à mon endroit, moi, je vous aime. Je vous aime tous. Pas juste mes admirateurs, là. Pas juste mon fan club. Il dit, je vous aime tous. Mais dans l'église de Corinthe, il faut s'arrêter un petit peu et regarder l'église de Corinthe. L'église de Corinthe, elle avait le vent dans les voiles. « Hey, mon ami, ça, c'est une église cool. » C'est le genre d'église, tu regardais de dehors l'église, là, puis ils avaient tout. C'était riche, c'était, ils avaient tout. Ils étaient gâtés. D'ailleurs, l'apôtre Paul va commencer sa lettre en remerciant le Seigneur pour tout ce que l'église de Corinthe a. Et puis, il est sincère, il le dit. En lisant son introduction, voici ce qu'on peut lire. Et c'est Paul qui l'avait fondé il y a 5 ans avant. Là. Donc, pour une église, avoir tous ses dons, avoir toute cette abondance, tous ces talents-là, après juste 5 ans d'histoire, ça faisait juste 5 ans que l'Église existait, c'est pas qu'il l'avait fondée il y a quelques années avant, c'était assez phénoménal. C'était garanti pour réussir cette Église-là. Là. Ils avaient tout. Là. Alors, regardez le verset 4, je vais juste vous le lire. « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. » Alors, il dit au verset 7, « Il ne vous manque aucun don. » Imaginez, on parle d'une église là, qui a tous les dons. Là. Tous les dons. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus apparaîtra. Et c'est frappant ce qu'il dit, l'apôtre Paul, au verset 7. Il dit, il vous manque absolument rien, là, des dons. Là. C'est incroyable, ils ont des dons. Là. C'est comme l'émission là, du talent à revendre. Les autres, ils en ont à revendre. Il y en a, mon ami. Tiens, en veux-tu? Alors, tout un avenir attend cette église-là. C'est sûr, ça va réussir. C'est une église qui est fantastique. Elle a tout. Pas vraiment, n'est-ce pas? Il manque une chose. C'est l'essentiel. Il manque l'amour. Maintenant, sachant que cette église ne manque rien, regardez maintenant ces paroles de Paul à la lumière du contexte et à la lumière de l'Église de Corinthe. Et vous allez voir que ça s'adresse directement à eux, ça. Lorsque Paul va commencer 1 Corinthiens chapitre 13, qui est sur l'amour, voici ce qu'il dit. 1 Corinthiens 13, qui commence comme ceci. « Si je parle les langues des hommes et même des anges quand je n'ai pas l'amour. » Voyez-vous ce qu'il dit? Et il va le dire 3 fois, cette phrase-là, « si je n'ai pas l'amour ». Ça ne sert absolument à rien. 3 fois. Alors, si je parle les langues des hommes, toutes les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, ça ne fait absolument rien. Si je distribue mes dons, si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, ça ne me sert absolument à rien. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire ici à ces Corinthiens? Si je n'ai pas l'amour, 3 fois, il est clair, absolument clair, que c'était exactement le problème des Corinthiens. Il manquait l'amour. Ils ont tous ces beaux dons, mais il manque l'amour. C'est ce qui manque. Ils ont tous les dons du monde. D'ailleurs, on en compte plusieurs juste dans le chapitre, plusieurs dans le chapitre, là. Mais il manque l'amour. Maintenant, le chapitre 16 est magnifique. Hein? On lit le chapitre 13 sur l'amour, c'est magnifique. C'est un chef-d'œuvre. J'ai même lu ce passage-là. Il y avait un couple d'amis, des voisins, pas loin de chez nous, qui demeuraient dans le temps qu'on restait à Rive-Sud de Montréal. Ils n'étaient pas chrétiens. Et puis, ils ont voulu que je les marie, puis tout ça, ils restaient ensemble, ils avaient un enfant, donc, et on a accepté. Ils disaient, moi, c'était des bons amis de Lise, et j'ai accepté. Et on a lu 1 Corinthiens 13, imaginez. Les gens sont fascinés. Hein? On pense que tout le monde connaît 1 Corinthiens 13, c'est pas le cas. Les gens sont fascinés quand ils découvrent pour la première fois 1 Corinthiens 13. Pas vous? Hein? Lorsque vous avez découvert 1 Corinthiens 13, c'était fascinant. C'était super, tu regardes ça, c'est touchant même, c'est super beau. Mais pensez-vous que c'était beau pour les Corinthiens qui ont entendu 1 Corinthiens 13 et qui étaient en train de se lire dans leur église, en public, un dimanche matin? Là. Hey, on a reçu une lettre de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 13. Laissez-moi vous dire que les Corinthiens rougissaient. Ils étaient embarrassés par ce qu'ils entendaient, parce qu'ils comprenaient très bien ce que Paul laissait entendre. Ils avaient compris. Là. Et l'Église était gâtée. Et Paul ne mange pas ses mots ici dans ce chapitre. il y a la question de la prophétie au verset 2. Certains se vantaient de recevoir des enseignements de la part de Dieu qui surpassaient les autres églises. Hein, l'église de Corinthe, ils avaient cette mentalité-là que nous autres, on est pas mal meilleurs que les autres églises. Hey, nous autres, on l'a l'affaire. On est hot, on est cool, on est full cool. On l'a l'affaire. Et c'est ce que Paul laisse entendre là, au verset 2. Il se vantait de recevoir des inspirations de Dieu. Il se voyait comme étant supérieur aux autres églises. Il se voyait supérieur aussi avec le don des langues. Ah, ça chantait en langue les dimanches, les louanges sont bien meilleurs que les autres églises et tout ça. C'était fantastique. Les autres, ils voyaient ça là, comme « wow ». C'est pour ça que Paul va devoir consacrer tout un chapitre, 14, juste là-dessus. Alors, cette église croyait que leur service de louange surpassait de loin les autres églises. Il se voyait avec beaucoup plus de connaissances que les autres églises. D'ailleurs, il méprisait Paul. Il disait « Paul, tu n'as rien à nous enseigner, nous autres ». Il ne reconnaissait même pas Paul comme apôtre maintenant. Il dit, tu n'as absolument rien à nous enseigner, nous autres. Nous autres, on a l'affaire. On reçoit des inspirations directes de Dieu. On est branchés, nous autres. Viens pas nous parler. Alors, il méprisait Paul. Il avait vraiment une mauvaise attitude à son égard. Alors, il se voyait avec beaucoup plus de connaissances que Paul, que les autres églises. Il se voyait plus spirituel. Hey, nous autres, on a des dons miraculeux. Il méprisait la façon de prêcher de Paul. Il ne trouvait pas vraiment un bon prédicateur. Les autres se voyaient cool. En plus, on voit qu'ils avaient de la foi pour bouger les montagnes, donc il y avait des choses qui se passaient quand même, qui révélaient, qui démontraient de la puissance de Dieu. Alors, ils pouvaient montrer la puissance divine, les puissances surnaturelles. Alors, ils donnaient des enseignements divins, ils louaient comme une personne d'autre, ils avaient une connaissance qui surpassait celle des autres, puis ils démontraient la puissance surnaturelle. Laissez-moi vous dire que si cette église-là existait aujourd'hui, dans notre milieu, le genre de publicité qu'ils feraient, là, ça serait vraiment « wow, hey, nous autres, on l'a l'affaire ». Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ça maintenant, c'est bien populaire la publicité d'église. Maintenant, on a des pancartes dehors, on fait de la publicité et tout ça. Alors, regardez quelques-unes des publicités qu'on a vues. Celui qui a volé notre climatiseur, vous pouvez le garder, il fait chaud, vous en allez. Hey, ça existe pour de vrai, là. Je ne suis pas fier de dire que c'est une église baptiste à part de ça. Wow! Un autre pub. Klaxonnez si vous aimez Jésus. Textez en conduisant si vous voulez le rencontrer. Oh boy! Honk! Honk if you love Jesus! Oh brother! Maintenant, si l'église de Corinthe était ici et vivait aujourd'hui, voici le genre de publicité qu'ils feraient, eux autres. Ça serait écrit sur leur panneau dehors. Prédication divine, louange divine, connaissance divine, puissance divine, service à 9h, 11h et 6h. Wow! Hey, on l'a l'affaire, nous autres! Hein? Quelle église! Hey, mais Paul dit... Paul reconnaît, il dit, moi, je nie pas que vous avez toutes ces choses-là. Il l'a dit d'ailleurs dans le premier chapitre, il dit, écoute, vous avez tous les dons, là. Il reconnaît ça, il reconnaît tout ce qu'il faisait. Puis il faisait des bonnes choses, l'Église de Corinthe faisait des bonnes choses, on l'a vu. Ils ont même écrit une lettre à l'apôtre Paul, demandant comment il pouvait aider financièrement pour aider tous les démunis, tout ça. Donc, il faisait des bonnes choses. Mais il manquait l'essentiel, pas vrai? Il manquait l'amour. Est-ce qu'une Église peut exister sans amour? Est-ce qu'une banque peut exister sans argent? Ça ne marche pas, là. Ça va fermer un jour ou l'autre. Tu vas faire un temps, mais tu ne t'offres pas. Alors, l'histoire de l'Église nous apprend qu'effectivement, l'Église de Corinthe a fermé les portes plus tard. C'est pas l'amour, ça ne durera pas longtemps, là. Et il n'aimait même pas l'apôtre Paul, imaginez. Paul, lui, les aimait. On l'a vu à la fin, le dernier, il termine la lettre en déclarant son amour pour eux. Mais non seulement ça, il l'a fait aussi ailleurs, à travers 1 Corinthiens. Par exemple, au chapitre 4, voici ce qu'il dit. Il dit, « Ce n'est pas pour vous faire honte que je dis cela, mais je vous avertis comme des enfants bien-aimés. » Voyez-vous, Paul se voyait comme un père spirituel. Il était leur père spirituel, parce que c'est lui qui avait implanté l'Église 5 ans avant. Il avait conduit plusieurs des personnes au pied de la croix. C'était leur père spirituel, et il voyait cette Église comme ses enfants spirituels. Il était comme un père, il les aimait comme un père. Et verset suivant dit ceci, « En effet, même si vous avez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. » C'est lui qui était leur père spirituel. Paul emprunte l'image de ce père-là, d'un père. Alors, il leur dit, « Je suis votre père. Vous n'avez pas une tonne de pères, c'est moi votre père spirituel. » Mais le problème avec les Corinthiens, c'est qu'ils n'écoutaient pas leur père spirituel. Ils écoutaient plein d'autres guides. Regardez le verset qui suit, au verset 15, qui dit ceci. Non, ça ne fonctionne pas. Je vais vous lire. C'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez vous. Imaginez. Quelques-uns, pensez à ça, là. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil pensant que je n'irai pas chez vous. Ah, il ne viendra pas chez nous. Imagine, c'est comme être tortueux pas mal, là. Ça, c'est leur attitude à l'égard de Paul. Lui qui était leur père spirituel. Et laissez-moi vous dire, ça fait mal quand tes pères et tes enfants ne t'écoutent même pas, ben, rien savoir de tes conseils, rien savoir de tes principes. Puis ils vont rechercher des conseils un peu partout, sauf à papa. Mais c'est comme ça que Paul se sentait. Là. Et il entendait toutes sortes de choses à leur égard. Voici ce qu'il dit au verset. Dans le premier chapitre, il dit, « J'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités parmi vous. » Maintenant, Jésus avait dit que c'était comme ça qu'on reconnaissait qui était pour être ses disciples, qui étaient ses disciples. C'était par l'amour qu'ils avaient, que les disciples ont les uns envers les autres. Mais laissez-moi vous dire que les gens ne voyaient absolument pas l'Évangile par l'attitude de l'Église aux Corinthiens, l'Église de Corinthe. Absolument pas. Quel témoignage, c'était affreux. On apprend qu'il y a des rivalités, il y avait des divisions dans l'Église, des chicanes, du mépris, de l'envie, de l'orgueil, tout ça. Mon ami, quel témoignage, c'est affreux. Alors, c'est la raison pour laquelle Paul va écrire le chapitre 13 sur l'amour. Et la définition qu'on a de l'amour au chapitre 13 vise directement ce qui manque à l'Église de Corinthe. On pourrait le dire comme ceci. Paul va décrire l'amour au verset 4 et on pourrait le lire comme ceci. L'amour est patient, mais vous, les Corinthiens, vous ne l'êtes pas, là. L'amour est plein de bonté, mais vous, vous ne l'êtes pas. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, mais vous, vous le faites. C'est exactement ce que vous êtes. Vous êtes envieux les uns les autres. Vous vous vantez d'avoir plein de dons extraordinaires. L'amour ne cherche pas son intérêt, mais vous, mon ami, vous insistez à agir comme vous l'entendez. Alors, Paul définit l'amour ici en termes de nos relations les uns avec les autres dans l'Église. Et toute la conception de la spiritualité, hein, on a expliqué ça au chapitre 12, lorsqu'il va commencer, il va amorcer toute cette discussion sur les dons spirituels. Et il sait bien qu'ils ont une mauvaise conception de la spiritualité. C'est quoi être spirituel? Ils pensent que c'est tout avoir ces dons-là extraordinaires. Et Paul va leur dire, non, non, non. Un, c'est que Jésus-Christ soit, que tu reconnaisses Jésus comme Seigneur, qu'il soit le Seigneur de ta vie. Puis deuxièmement, que tu cherches le bien des autres. Et là, il amorce toute la section sur les dons spirituels. Les autres. Avoir de l'intérêt pour les autres. Se soucier du bien-être des autres, les uns les autres. C'est ça qu'on veut voir, hein? C'est ça que l'Esprit-Saint veut voir. C'est ça que le Seigneur veut voir au sein de l'Église. Que l'on prenne soin les uns des autres. L'amour est libre de toute forme de jalousie, de prétention, de vanité, d'arrogance, d'égoïsme, de mépris et de chercher ses propres intérêts. Et à moins que nous libérer de ces choses-là, il est impensable de vivre ensemble, d'être unis et d'avoir un bon témoignage dans la communauté. Et Dieu ne sera pas honoré. Parce que l'amour, c'est la chose la plus importante, nous dit 1 Corinthiens 13. D'ailleurs, il termine là-dessus. Hein, il va dire la foi, tout ça va passer, mais la foi, l'espérance et l'amour vont rester. Mais l'amour, c'est le plus grand, c'est la plus grande chose. Pourquoi c'est la plus grande chose? Parce que la foi, est-ce que Dieu a besoin de la foi? Absolument pas. Il est Dieu, il fait tout, il est capable de tout faire, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Est-ce que Dieu a besoin d'espoir? L'espoir, c'est d'espérer quelque chose que tu n'as pas, tu espères que ça va venir. Non, non, Dieu n'a pas d'espoir. Il fait tout ce qu'il veut. Il a tout ce qu'il veut. Il est parfait. Mais est-ce que Dieu a l'amour? Et c'est pour ça que l'amour, c'est la plus grande des choses, parce que lorsqu'on va entrer dans l'éternité, Dieu est amour. ça va toujours rester pour l'éternité. Dieu est amour. Alors, comment on a cet amour-là? Bien, chapitre 14 qui suit toute cette belle description, ce chef-d'œuvre sur l'amour, commence en disant ceci, rechercher l'amour. Ça commence là, il faut que tu aspires à l'avoir. Tu cours après l'amour. Tes décisions sont prises en fonction de l'amour. Tu vis en fonction d'aimer, comme c'est décrit dans Corinthiens 13. Et c'est ça que ça dit finalement dans l'original, parce que là, voici ce que ça dit, rechercher l'amour. Le mot rechercher, c'est vraiment intéressant, c'est le même mot que Paul va employer dans Philippiens 3, lorsqu'il dit, je cours vers le but. Je cours pour l'obtenir. C'est ça le mot ici, le mot rechercher, là. Je cours vers le but. Le lexique, un des meilleurs lexiques, le Bidag, le dit ceci, il dit, c'est bouger rapidement, énergiquement, de manière décisive vers un objectif. C'est courir, c'est se dépêcher, se hâter et se presser. Imagine, presse-toi à vivre, à faire tout avec amour. Presse-toi. L'idée, c'est d'avoir une ambition. Aie l'ambition de faire tout avec amour. Aie cette ambition-là dans ta vie. Et Paul finit sa lettre avec le même message. Exactement le même message. Il finit au verset 14 en disant « Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. » Quelle belle façon de terminer cette lettre en nous donnant, en nous remettant ce message que tout ce que l'on fait, faisons-le avec amour. Amen. Parce que c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait, et c'est ce qu'elle nous dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, hein, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça qu'on veut célébrer ce matin. En prenant le pain et la coupe, on veut célébrer ce sacrifice de Jésus-Christ qui est allé à la croix pour nous. Alors j'inviterai les frères à venir pour distribuer les éléments de la Sainte-Seine, et ensemble on va prendre ce pain et cette coupe qui nous rappellent le sacrifice de Jésus.